Vous partez prochainement en congé et vous êtes peut-être à la recherche d'un ou plusieurs livres pour accompagner vos vacances. Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens, vont vous proposer leur sélection. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Nous commençons avec vous Christelle.
Avec plaisir Eric. Et eh bien cette semaine, moi je vous propose un voyage au nord de l'État de New York, direction les Adirondacks. Avec ce roman, enfin, roman noir, qui s'appelle « Le Dieu des bois » de Liz Moore aux éditions Buchet-Chastel. Donc un excellent roman noir, mais aussi un bon roman bien copieux qui va vous faire voyager dans le temps et dans l'espace. Donc comme je le disais, direction les Adirondacks au nord de l'État de New York et direction le camp Emerson. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de ces camps d'été. Mais celui-ci est un petit peu particulier puisque le camp Emerson est un camp d'été, mais pour une jeunesse dorée, une jeunesse très aisée. Et ce camp Emerson est niché en pleine nature. Alors, des ados de 8 à 14 ans passent 2 mois dans ce camp pour découvrir la nature et apprendre à y survivre. Le mot d'ordre, d'ailleurs, que l'on connaît dès le début, c'est, je cite, ouvrez les guillemets, « Si vous vous perdez, asseyez-vous et criez. » Or, un matin, durant ce camp d'été, manque à l'appel une jeune adolescente, Barbara. Mais Barbara, ce n'est pas n'importe quelle adolescente, puisqu'il s'agit de Barbara Von Lahr, la fille des propriétaires du camp et de la réserve, une famille de riches banquiers. Et puis, surtout, sa disparition va rappeler également un autre drame, c'est la disparition de son frère, Beer, disparu lui aussi de la réserve presque 15 ans auparavant. Donc, deux disparitions, deux énigmes, 15 ans d'écart, et un même décor est fascinant mais un peu étouffant, puisque une nature à perte de vue, des bois à perte de vue, donc un endroit, encore une fois, envoûtant et menaçant. Alors, ce qui est très réussi dans ce roman, c'est que l'intrigue alterne entre les différents points de vue de différents personnages. Évidemment, il y a beaucoup, vous voyez, c'est un copieux roman. Hein. Donc, différents personnages. On va voir donc le point de vue de Louise, qui est monitrice du camp, qui, elle, est issue d'une famille beaucoup plus simple, une famille de la région. De Tracy, une adolescente mal dans sa peau, timide, qui, elle, va devenir la confidente de Barbara. Et puis, le point de vue d'Alice, la mère de Barbara, qui erre depuis 15 ans dans la tristesse depuis la disparition de son fils Bear, son fils chéri. Et puis, encore un personnage, il y en a beaucoup, celui de Judy, qui est la jeune enquêtrice qui, elle, va prendre en charge l'enquête sur la disparition de Barbara. Voilà donc la construction qui est encore une fois vraiment très très réussie, puisque vraiment passé et présent se mêlent avec brio pour réussir à comprendre ce qui se joue en cet été 1975 et ce qui est lié à la disparition de Béa. Donc tout au long du roman, eh bien, la tension monte, délivrant petit à petit des indices pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, jouant également sur l'ambiguïté de certains personnages Et aussi, c'est un autre aspect du roman, sur une opposition entre classes sociales, celle des très riches, de la famille Van Leer et leurs amis qui viennent régulièrement, et celle des gens du coin. Et de ce point de vue, je trouve que finalement, le roman, au-delà de l'intrigue, il nous parle aussi de cette Amérique des années 60 et des années 70. Donc au final, c'est un roman quand même, comme on les aime, extrêmement addictif. Les multiples temporalités donnent un rythme incroyable, oscillant encore une fois entre la disparition de Barbara et celle de son frère, remontant au fur et à mesure le temps et retournant à la source des drames qui touchent cette famille puissante. Donc un suspense toujours présent et toujours l'ombre inquiétante des bois qui planent sur l'intrigue. Et bien entendu, je n'en dirai pas plus, sinon que voilà, c'est un excellent roman, roman noir, Le Dieu des bois de Lise Moore aux éditions Buchet-Chastel.
Merci Christelle. Desbois, Sylvain, nous allons où ?
Ah ben là, on va rester dans les grands espaces. Je vais vous parler donc d'un livre qui vient de sortir la semaine dernière. Il s'appelle Éternel émerveillement de Thomson Highway aux éditions Des Paysages. Alors, sous-titre du livre, Grandir au pays de la neige et du ciel infini. Alors d'abord, un petit mot, vous les connaissez, on en a parlé souvent, on a reçu des auteurs ou autrices, les éditions Des Paysages, donc maison d'édition qui notamment a une collection qui s'appelle Talisman, qui publie donc des auteurs et autrices autochtones, à la fois des classiques, hein, des auteurs peut-être il y a quelques années, et puis des auteurs très contemporains. Là, l'émerveillement, c'est en effet le mot qui vient à la lecture de ce livre. Dans son précédent livre, Thomson Highway, dont j'avais parlé, que j'avais beaucoup aimé, Le baiser de la reine blanche, l'auteur, donc Thomson Highway, nous racontait notamment, en grande partie, son enfance et surtout donc sa vie dans les pensionnats canadiens où les jeunes autochtones étaient envoyés quand ils étaient adolescents et assimilés et victimes de violences absolument inacceptables de la part de ceux qui dirigeaient ces pensionnats. Dans ce livre-là, Éternel émerveillement, Thomson Highway va plutôt revenir sur son enfance, à partir de la naissance, hein, et ses premières années, c'est ça qu'il va nous raconter. Donc il est né au sein d'une famille Cree, donc c'est un peuple autochtone dans le nord du Canada. Ses parents étaient trappeurs et pêcheurs dans le Grand Nord, donc aux confins du Manitoba, donc au bord d'un lac qui s'appelle Reindeer. Et donc c'est là qu'il a grandi avec ses frères et sœurs. Et c'est cette vie dans cette nature à la fois extraordinaire et riche, mais en même temps qui peut être hostile et qui est exigeante, qu'il va nous décrire ses impressions, ses premières années, ses croyances. Alors, dans cet infini, parce que juste quelques petits détails, il faut savoir que le lac au bord duquel il vivait avec ses parents a la superficie des Pays-Bas. Ça donne un petit peu, voilà. Autre chose, il raconte que quand il est tout petit, ses parents vont emmener sa sœur aînée à l'école, au pensionnat. À Saint-Gaudens, vous prenez la voiture, c'est 10 minutes. Là, dans le Manitoba et dans les territoires des Cree, c'est un mois de canoë. C'est un mois de canoë pour emmener la fille et un mois pour revenir. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Donc c'est vraiment un livre qui vous décentre énormément parce que vous découvrez une réalité qui est tellement éloignée de la nôtre. Et donc vraiment, moi j'adore ce livre, vraiment je l'ai lu. C'est un livre qui a un souffle absolument incroyable, il nous emporte loin, il nous fait rêver. Il sollicite à chaque page notre imaginaire parce qu'on a besoin de se représenter hein, ces territoires, cette vie, le milieu que décrit Thomson Highway et puis surtout la culture Cree. C'est un livre absolument magistral que je conseille. C'est une lecture qui à la fois vous fait rêver, vous apaise, vous emporte. Et vraiment, il a une écriture à la fois très descriptive. Il analyse. On n'est pas du tout dans le folklore. Hein, on n'est pas dans le folklore amérindien, les gentils indiens avec le chapeau à plumes. Hein. Là, vraiment, il va essayer de faire comprendre leur vie, leur quotidien, leurs difficultés aussi. Hein. Je veux dire, il y a une chose qui est très marquante, c'est que sa mère a eu beaucoup d'enfants, mais beaucoup, beaucoup sont morts parce que voilà, ils vivent l'hiver par moins 40. Hein. Comme il dit, je suis né sur un banc de neige. Hein. Donc on peut s'imaginer ce que c'est que de naître sur un banc de neige par moins 40. Hein. Voilà, c'est vraiment un livre, moi, que je trouve absolument exceptionnel. C'est un auteur que je retrouve après avoir lu Le baiser de la Reine Blanche il y a 2 ans, avec énormément de bonheur, parce que vraiment, c'est de la très, très grande littérature. Si on a le temps, je peux vous lire un petit passage. C'est vraiment le début du livre, hein. C'est vraiment le début. Je suis né et j'ai vécu mes premières années dans le plus beau paysage sur Terre, là où le nord du Manitoba rencontre le Saskatchewan, les territoires du Nord-Ouest, ce que l'on appelle depuis 1999 le Nunavut. Non seulement ce coin du monde recèle-t-il 1000 merveilles naturelles, mais son éloignement lui confère le statut de secret le mieux gardé de la planète. Encore à ce jour, personne n'y a jamais posé les yeux et personne ne pourra jamais le faire à moins d'en être originaire, comme c'est le cas pour les Cris, les Dénés et les Inuits. Nous sommes si peu nombreux que l'on constate à peine notre présence dans toute cette immensité. Ce paysage a coupé le souffle. Voilà ce qu'en dit ma sœur Louise. Comme tous les mois de décembre depuis les années 20, Joe Highway, c'est son père, chasseur cri de caribou, et sa femme Balazi, traverse ce coin du monde en traîneau à chien. À l'époque, le seul moyen de transport pour cette saison-là est un Ouattapanaak, un traîneau en bois de bouleau. Le bouleau est l'essence idéale pour fabriquer une embarcation à la fois légère et rapide. En gros, c'est un toboggan qui mesure environ 2,5 mètres avec des rebords de toile qui s'élèvent à hauteur du genou et dont l'avant est recourbé comme une canne de Noël, tiré par 8 huskies harnachés dont certains partagent une bonne part de leur génétique avec le loup. Plusieurs en ont l'air. Le traîneau peut accueillir jusqu'à 6 passagers, à condition bien sûr que certains d'entre eux soient des enfants, comme c'est le cas ici pour 3 des passagers. Et voilà, et vous êtes partis. C'est extraordinaire. C'est magnifique.
Éternel émerveillement.
Thomson Highway aux éditions des Paysages.
Christelle.
Voilà, on part un peu dans la montagne, dans la neige. Deuxième choix, un choix destiné aux ados qui, dans quelques jours, vont quitter les bancs de l'école. Donc, voici une suggestion de lecture pour bien commencer les vacances avec un roman qui va être une trilogie extrêmement envoûtante qui s'appelle Ono. Tout simplement, O-N-O, d'Hélène Sica, chez Flammarion Jeunesse. Donc, le tome 1 s'appelle La pierre des miracles, est sorti déjà il y a quelque temps, et vient de sortir le tome 2, qui s'appelle Le réveil des ronces. Alors, Eric, imaginez pour ce tome 1, La pierre des miracles, une pierre capable de réaliser tous les vœux, de déjouer les lois, même celles de la nature, de défaire ce que le destin a fait, voire même de renverser les sorts. Eh bien, c'est cette pierre magique qu'Ono doit trouver pour sauver sa famille, la poussant ainsi hors de ses frontières familières vers des contrées inconnues où le danger est partout, notamment avec la redoutable Dame de Sel, une figure terrifiante dont le pouvoir n'a d'égal que la cruauté. Mais parce que justement, rien n'est blanc ou noir dans ce roman, et ça aussi c'est une de ses réussites, notre Dame de Sel a aussi des fragilités bien cachées. Alors, Ono, notre héroïne, va se découvrir elle-même petit à petit, en même temps qu'elle découvre le vaste monde, et chacune de ses rencontres et de ses découvertes va la faire évoluer et grandir. Alors, le monde d'Ono est aussi onirique que notre jeune héroïne est touchante. Et avec ce roman, eh bien, nos jeunes lectrices et lecteurs vont plonger dans un univers de vieilles légendes, de magie et d'êtres extraordinaires. Le tout écrit avec une plume fluide, poétique, accessible et qui nous fait ressentir toutes les émotions traversées par la jeune Ono qui, quand même, tenez-vous bien, sait communiquer avec les plantes. Voilà. Donc en conclusion, eh bien, c'est une lecture merveilleuse, inspirante, enchanteresse, qui sait tenir en haleine, comme pour les grands, le jeune lecteur et où la nature prend une place prépondérante. Voilà, donc à ce jour, 2 tomes, le troisième peut-être pour l'année prochaine, mais ça permet déjà de bien commencer ses vacances avec Ono d'Hélène Sica chez Flammarion Jeunesse.
Merci Christelle. Sylvain, pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal?
Alors là, on quitte complètement, c'est ça la magie des livres et la magie de la librairie, c'est qu'on a un livre complètement différent. Là, je vais vous parler d'un essai qui vient de paraître, pareil, il y a quelques jours, donc de Eddy Fougier, qui s'appelle « Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ?» Sous-titre « Le fléau du pessimisme pour la démocratie ». Ça, c'est aux éditions de l'Aube. Alors, cet essai, puisque c'est un essai qui fait à peu près 170 pages, et vraiment, moi, je l'ai trouvé passionnant pour comprendre et combattre un sentiment qui nous envahit de plus en plus, il faut l'avouer, l'impression que tout va mal et que tout va de plus en plus mal. C'est vrai que si on réfléchit là autour de cette table, on est beaucoup à penser effectivement que le monde va pas très bien et que les choses ont tendance à empirer. Eh bien, l'auteur qui est politologue va analyser et nous expliquer d'où vient ce sentiment et pourquoi on a ce sentiment. Alors, il commence déjà en introduction par dire que effectivement, objectivement, quand on analyse, il y a des raisons de s'inquiéter. Le dérèglement climatique, là en ce moment, les chaleurs qu'on subit n'ont aucun hasard, bien entendu. Les nombreuses guerres auxquelles on assiste, les régimes autoritaires qui fleurissent un petit peu partout sur la planète. Bref, on a objectivement des raisons de se préoccuper et de s'inquiéter. Mais ce qu'il nous dit, c'est attention, l'impression de vivre une catastrophe en permanence, partout dans le monde, et vraiment de mal en pis, c'est quelque chose qu'il faut combattre parce que ça n'est pas vrai. Il nous aide à comprendre en fait pourquoi on a ce sentiment en nous expliquant principalement que d'abord, il y a un certain nombre de médias qui ont intérêt à vendre ce type d'informations parce que c'est beaucoup plus accrocheur. Il prend l'exemple en disant, voilà, un train qui arrive à l'heure, on va rien dire. Mais par contre, effectivement, une catastrophe ferroviaire, même si elle est au fin fond du Kerala ou au Mexique, là, effectivement, ça va faire la une, les gros titres, voilà. Et donc, il y a déjà une partie, effectivement, des médias qui ont intérêt à mettre. Il dit également, attention, vous avez dans la société un certain nombre d'acteurs politiques et sociaux qui ont intérêt aussi à nourrir cette espèce de sentiment de déclin, ce sentiment de tout va mal et on va vers la catastrophe et vers la fin du monde. Et il le décrypte très bien, il dit il y a des mouvements politiques qui ont intérêt à nourrir ce genre de choses. Et puis, et ça j'allais dire, c'est peut-être l'aspect le plus important, le plus intéressant et le plus surprenant de cet essai, il nous dit que, effectivement, les psychologues l'ont prouvé, la tendance naturelle des êtres humains nous pousse vers plutôt, au niveau social, le pessimisme. Et il dit que c'est très intéressant de voir que beaucoup de gens, par exemple, sont individuellement optimistes sur leur propre situation, mais par contre, sur la société, ont un discours pessimiste. Et ça, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est plutôt une tendance générale. Et notamment, il prend un exemple, moi, qui m'a vraiment frappé. Il dit, vous reprenez des textes classiques de grec, il y a 30 siècles, qui disaient, les jeunes ne respectent plus rien, n'apprennent plus rien dans les lycées. Voilà, il y a 30 siècles. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant. Il prend un autre exemple en disant, prenez l'exemple de, les gens ont l'impression de vivre plus mal, de plus en plus mal. Il dit, quand vous regardez objectivement les conditions de vie dans nos logements, c'est parlant, c'est-à-dire qu'il nous donne un certain nombre de statistiques du début du siècle, de 1950, de 1970, de l'équipement en eau chaude, en chauffage, en isolation, ça n'a rien à voir. Donc objectivement, nous vivons quand même dans des conditions plus confortables. Bref, vous l'avez compris, moi cet essai, je l'ai trouvé très intéressant, il m'a passionné. Je trouve qu'il est assez salutaire, parce que c'est vrai qu'à certains moments, on a tendance à se laisser envahir tous par un discours un peu pessimiste au quotidien, en se disant, bah, vous avez vu, voilà, il y a encore une guerre, tiens, il y a encore des températures de fin du monde. Et ben voilà, ça fait du bien de temps en temps de lire un essai qui décrypte et qui nous explique. Et puis, qui nous aide un petit peu à réévaluer notre opinion sur le monde. Donc vraiment, je trouve que c'est un essai à lire. Donc je rappelle le titre, « Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ?» de Eddy Fougier aux éditions L'Aube.
Merci Sylvain. Christelle, du côté des animations à la librairie indépendante à Saint-Gaudens, ça approche, on va dire, à sa fin, la pause avant la pause estivale.
Exactement, on arrive à la fin de la saison des événements et de rencontres. Et donc, on clôture cette saison samedi après-midi avec la venue donc, de Christian Louis à partir de 16h-16h30 à la librairie pour son dernier opus, tout dernier, hein, qui sort là, vraiment, oui, demain, enfin, voilà, ces jours-ci, et toujours aux éditions TDO, et qui s'appelle Le sommet de la peur. Donc, tout un programme, voilà, et on vous attend. Si vous souhaitez, le rencontrer, échanger avec Christian Louis, il sera à la librairie, donc, ce samedi.
Samedi 28 juin.
Voilà, à partir de 16h-16h30, jusqu'à la fermeture de la librairie. Donc même s'il fait un petit peu chaud, vous pouvez venir que vers 18h, 18h30, 19h. Nous serons là et Christian Louis également.
Merci Christelle.
Merci Eric.
Merci Sylvain.
Merci beaucoup Eric.
Et je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Merci.